10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est l'islam au présent sur Beurre FM. Vous le savez, tous les samedis, nous vous donnons rendez-vous avec 7 heures pour parler d'islam avec vous. Et puis surtout, l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. Bonjour, imam Abdelali.
Bonjour, Philippe. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Vous avez vu, je vous ai installé votre casque.
Ah, c'est gentil, merci. C'est vrai que là, c'est très agréable. C'est très
là, vous, comme ça, vous entendez bien, imam Abdelali.
C'est super gentil.
Est-ce que vous avez passé une bonne semaine?
Excellente. Mouvementée, mais ça va.
Bon, qu'est-ce que vous avez fait de mouvementé?
Eh ben, écoute, on travaille avec la Grande Mosquée de Paris pour mettre en place le Conseil National des Imams.
Ah, le fameux.
Oui, on travaille aussi dans d'autres vidéos que diffuse la Mosquée de Paris pour justement proposer un autre discours que celui d'un discours radical. D'abord d'une compréhension des principes qui gèrent la relation entre le croyant et ses références scripturaires que sont le Coran et la Sunna, parce que c'est là où le bât blesse, c'est le mobile, celle qui motive, mobilise quelqu'un à se comporter bien ou mal, utiliser à bon escient ou à mauvais escient les préceptes de l'islam. Donc voilà ce que fait entre autres la Grande Mosquée de Paris avec tous ses imams. Auquel je me suis investi depuis déjà, tu sais très bien, et c'est même aussi avec tes encouragements.
Voilà. Ouais, voilà. Moi, je vous encourage, imam Abdelali. Et je vous encourage surtout à venir tous les samedis matin pour parler d'islam.
Est-ce que j'ai failli?
Non, vous êtes bien. Non, il y a 15 jours, vous étiez en vacances.
Ah, bah, j'avais prévenu. J'avais prévenu. Et je t'avais proposé un autre imam. Je t'ai proposé des intervenants
moi,
à la place.
Non, j'ai dit, je veux pas.
Non, imam. D'accord.
Je me suis habitué à un.
J'ai pas laissé le terrain vacant.
Bien. Alors, justement, puisqu'on parle d'imama, imam Abdelali Mamoun, nous allons parler. Du métier. Alors je sais pas, parce que il y en a qui pensent que c'est un métier, mais de la fonction, de la charge d'imam. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que d'être un imam?
Alors, vous avez l'imam dans l'histoire, vous avez l'imam dans l'actualité. L'imam dans l'histoire, c'était d'abord le gouverneur, c'était le calife, on l'appelait al-imam. Par exemple, Ali, le quatrième calife de l'islam, on l'appelle Amir l'imam Ali ibn Abi Talib, qui était Amir al-Mu'minin. Le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, quand il parle de ces sept catégories de gens qui pourront jouir de l'ombre de Dieu le jour du jugement dernier, eh bien, le premier d'entre eux, il dit l'imam juste, c'est-à-dire l'imam équitable, l'imam qui exerce ses fonctions d'imam. Là, on parle de gouverneur, de gouvernance. C'est politique. Là, c'est la gouvernance d'un pays ou d'une communauté. On l'appelle aussi l'imam. Ça, c'est dans l'histoire. Je dis bien, c'est l'utilisation de l'expression dans l'histoire. Après, vous avez aussi ce statut d'imam d'un point de vue théologique. Chez les chiites, par exemple, l'imam, ce n'est pas simplement un référent. C'est aussi une source. Vous avez les 12 imams, les duodécimains, qui croient que les 12 imams qui ont succédé au prophète Mohammed sallam sont des sources de l'islam, qui ont continué à propager le message de Dieu à travers les descendants du prophète Mohammed sallam, qui étaient Moussa al-Kadhim, Ja'far al-Sadiq, al-Hussein, Ali Zayn al-Abidine, etc. Tous les fameux 12 imams, les duodécimains de la mouvance chiite, hein, la mouvance qui est aujourd'hui suivie en Iran, au Pakistan, etc. Et en Irak aussi, hein, 80% de la population irakienne est aujourd'hui d'obédience chiite. Donc il ne faut pas négliger que cette communauté, elle existe et elle a des imams, et ces imams infaillibles, puisqu'ils sont non pas des référents mais des sources. Alors pour que nos auditeurs comprennent, une source, c'est quand cette source-là s'adresse aux musulmans, c'est comme si c'est Dieu qui s'adressait à eux. C'est la source. Ils sont directement, leur parole est une référence source. Alors que le référent, lui, chez nous, comme on le conçoit, est simplement quelqu'un qui va interpréter, qui va faire un travail d'expertise quant à l'analyse, l'exégèse, l'herméneutique, tout ce qui relève du travail et du chantier pour comprendre les textes que sont les sources, le Coran et la Sunna. C'est le cas chez les sunnites. Nous considérons que les seules sources de l'islam sont le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la parole de Dieu et la parole du prophète. C'est fait et c'est ce qu'il a approuvé. Bref, tout ce qui relève de ce que le prophète a dit, a fait ou a approuvé. On appelle ça la sunna.
Qu'un sunnite, ce serait quelqu'un qui relève de la sunna.
Qui suit le Coran et la sunna. Attention. Voilà. Ouais. Attention, un sunnite ne peut pas se passer du Coran. Hein. Non, mais... Il est à la fois coraniste et sunnite. Mais il est aussi, entre guillemets, salafi. C'est-à-dire qu'il suit la référence de ces savants qui nous ont apporté la compréhension du Coran et de la sunna. Pendant la période pieuse des saints pieux qu'on appelle la période des salaf salih, qui était l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Hanbali. Donc finalement, le malikite est un salafi, d'un point de vue étymologique. C'est-à-dire, il suit les salafs, il suit les ancêtres pieux. Le mot salaf, ça veut dire ancêtre pieux. Salaf salih. D'accord? Donc quelqu'un qui est malikite, ben, il est salaf salih. Il est salafi, puisqu'il suit les salaf salih. Un Shafi'i, pareil, puisque tous ces hommes-là ont vécu pendant les premiers siècles d'or de l'islam.
C'est simplement que le sens qu'on donne aujourd'hui au mot et la connotation n'est plus la même.
C'est important qu'on comprenne d'où vient cette expression-là. Parce que ces gens-là, en se disant salafi, se positionnent sur un piédestal pour juger et se dire nous ne sommes pas simplement des salafis, mais nous sommes les représentants des salafs. Nous sommes les seuls véritablement héritiers du salafisme, des salafs salih. Donc c'est nous qui avons le droit de juger ce qui se passe aujourd'hui et de considérer qu'il est conforme ou pas conforme à la révélation et à l'esprit de la révélation. Donc pour revenir à l'imam dans l'histoire et dans la théologie, c'est comme je le disais, à la fois il est politique, à la fois il est théologique, il est donc dogmatique, mais il est aussi dans notre période un statut et une fonction. La fonction d'imam, c'est celui qui est dans une mosquée et qui anime l'ensemble des rites religieux. C'est la fonction d'imam. Il a la fonction d'imam et il est aussi celui qui va faire des mariages, qui va faire organiser des funérailles, il va organiser, les fêtes de naissance, il va assister aux cérémonies de naissance, etc. Tout un ensemble de rituels religieux dans lequel l'imam est là pour faire en sorte que il y a un lien entre cette action-là et Dieu, puisque lui, il est le sachant. Il est en même temps celui qui connaît la religion. Et c'est là, en fin de compte, l'autre aspect de l'imam, c'est le statut. Il y a la fonction, il y a le statut. Le statut, c'est l'imam qui est le savant, le alim, qui fait partie des ulama, comme on dit en français. Ulama, c'est le pluriel de alim. Alim qui veut dire savant. Le sachant, le savant, celui qui sait, celui qui connaît, c'est l'expert. Al-Khabir, fas'al bihi khabir, fas'alu ahl al-dhikr, interroger les gens qui savent, les experts, les gens du rappel et de la connaissance, ceux qui sont constamment la tête penchée dans les livres et dans les références de ces savants des salafs qui ont compris mieux que personne le message divin à travers le Coran et la Sunna. Donc ces sachants, il y en a en France. Il y en a dans le monde, bien entendu, surtout dans le monde musulman, ils sont très nombreux. Et aujourd'hui, le travail de ces sachants, de ces savants qui ont le statut d'imam, ce sont des imams, eh bien, le défi et l'enjeu qu'ils ont, c'est de s'assurer d'une adaptation du contexte au texte et de faire en sorte que l'adaptation ne soit pas avec des concessions majeures qui... on va dire, dénaturerait le message de Dieu. Donc, ce sachant est à la fois quelqu'un qui est un référent, qui adapte et qui contextualise l'islam à travers les siècles dans lesquels il se développe, c'est-à-dire il s'émancipe à travers les décennies et les siècles et les générations dans lesquels, depuis 1400 ans, il est en train de s'émanciper, s'adapter avec une différence énorme entre le contexte d'origine du 7e siècle, celui du prophète dans un désert avec des bergers de chameaux, avec qu'ils vivaient, ce sont des sédentaires, ce sont des bédouins, ce sont des gens du désert, alors qu'aujourd'hui l'islam est une religion moderne qui vit au 21e siècle et qui est confrontée à tout un ensemble d'éléments qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Donc tout ce travail est un énorme défi pour ces ulama pour adapter ce texte du Moyen-Âge, du 7e siècle, à une réalité contemporaine. Et c'est ce statut d'imam qui va donc prendre toute son rôle et toute son importance, puisque ce n'est plus simplement un imam qui va simplement organiser, animer les rites dans une mosquée, mais faire un travail de réflexion, un travail de recherche, un travail de ijtihad, comme on dit, pour adapter ces textes au contexte sans que cela les oppose et sans que cela crée des conflits. Malheureusement, en l'absence de ce travail aujourd'hui, beaucoup ont mal interprété, ou ont instrumentalisé ces textes-là pour en faire un objet de mort, un objet, un instrument et un mobile qui va encourager certains musulmans à commettre des meurtres, des attentats, des actes terroristes, etc. Et ça, effectivement, il y a un grand défi. Nous avons un grand défi à réaliser. Mais si chacun fait ce travail-là, en disparate, chacun dans son coin fait, mais que voilà, il y a rien qui centralise, qui permet de donner une force à tous ces efforts-là qui sont accomplis par tous ces imams. Eh bien, à quoi bon? Puisque il ne donnera pas les résultats que l'on escompte. Il faut donc une mobilisation, une unification, un rassemblement de ces imams pour, comment on appelle ça, harmoniser
chapeauter.
Non, pas chapeauter, mais réunir, c'est-à-dire valoriser, hein, valoriser ces efforts et ce travail de réflexion de ces savants. D'où l'objet de créer le Conseil national des imams.
Alors, qui peut se dire imam? Est-ce que quelqu'un qui arrive et qui dit « moi je suis imam », on peut lui contester ce titre?
Alors, comme je disais, il y a aujourd'hui, à notre époque contemporaine, deux catégories d'imams. Celui qui exerce la fonction de l'imam dans une mosquée, et il est imam à partir du moment où il est celui désigné par l'association propriétaire du lieu de culte et qui est gestionnaire du lieu de culte, et a dit que monsieur Intel est notre imam, donc il devient imam par les fonctions, par la fonction d'exercer l'imamat dans la mosquée. Il anime les rites religieux, ceux qui sont bien entendu légiférer dans le Coran et dans la Sunna. Mais vous avez aussi le statut de l'imam. Cet imam-là qui va intervenir comme une façade, comme une vitrine de l'islam, mais aussi à l'intérieur de l'islam quant à l'orientation globale des musulmans par un travail itinérant dans les mosquées, à travers les médias, à travers des communications, à travers le net aussi. Vous avez des imams aujourd'hui, les imams du net, ceux qui font des conférences, ceux qui interviennent dans le net, tels que Ismaïl Mounir, j'en passe des meilleurs, Cheikh Boussad, etc.
D'accord, mais le plus connu en France aujourd'hui, c'est Rachid Elgey.
Il
fait le plus de vues.
Effectivement.
Il y a Boussena.
À Brest, Abdel Mounim Boussena à Roubaix. Effectivement, ce sont des imams qui exercent.
Ils ont un mimbar, c'est YouTube.
Tout à fait, comme moi aussi, mon mimbar, c'est Beurre FM. C'est ce que j'essaye de faire au mieux. Et donc, tous ces imams-là ont une lourde responsabilité. Hein, tout ce qu'ils disent, ils ont le devoir de le peser sur la balance des conséquences que leurs propos peuvent avoir dans l'esprit des jeunes qui sont extrêmement fragiles, avides de spiritualité, avides de sens, complexés. Ils savent pas ce qu'ils sont. Ils sont pas français parce qu'on veut pas d'eux. Ils sont pas musulmans parce qu'ils sont pas bien. Ils ont pas suffisamment une personnalité musulmane forgée par un héritage et par une éducation de leurs parents. Parce qu'ils ont grandi en France. Parce qu'ils ont été dans les bancs de l'école de la République. Et ça n'a rien à voir avec ce statut de musulman. C'est-à-dire cette identité musulmane que leurs parents leur transmettent. Ils sont tiraillés un peu partout. Finalement, ils savent pas où s'en tenir.
Hein?
Est-ce que, comme disent certains, ce sont des poissons? Est-ce que ce sont... Non, bon, je vais m'arrêter là, parce qu'il va me dire que je suis en train de me moquer.
C'est quoi la différence, Imam Abdelali? Quelle est la différence entre un imam et un shir, par exemple?
Alors, le mot shir, c'est en arabe littéral celui qui n'est pas jeune. C'est-à-dire l'ancien, le vieux, le vétéran, celui qui a une expérience, une sagesse. C'est le shir, à l'origine, c'est ça. On dit un shir, c'est quelqu'un qui est vieux, en principe. C'est ça qui est normalement veut dire le mot cher. Mais à l'époque, on disait le cher, c'est celui qui, par son âge, par l'expérience, par les jours qu'il a passés dans sa vie, beaucoup plus nombreuses que celles et ceux qu'il est en train d'encadrer, eh bien, lui permet, grâce à son savoir aussi, parce qu'il s'est penché longtemps dans les livres, etc. C'est le savant qui va orienter une communauté. Une communauté dans une ville, dans une mosquée, dans un quartier, dans un pays, hein. Et aussi même les grands imams, les grands cheikhs. Qui étaient par exemple Al-Bukhari ou Muslim ou Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui étaient des grands savants de l'islam à travers les siècles, qui eux ont été identifiés comme des cheikhs, comme un statut inférieur à l'imam. C'est un statut inférieur
d'accord,
à l'imam.
Le statut est inférieur.
L'imam est aussi le fondateur d'une école et d'un courant religieux. Par exemple, madhab, on dit l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, fondateur de l'école Hanafi.
L'imam Malik.
Voilà, l'imam Malik. Mais on ne dit pas l'imam Al-Bukhari, on dit Cheikh Al-Bukhari.
D'accord.
On dit Rawahu Shaykhan. On dit rapporté par le Cheikh Al-Bukhari, Cheikh Muslim.
Et le Mufti alors?
Le Mufti, lui, va se pencher seulement sur les textes. Il ne va pas s'occuper de la communauté. il va se pencher, c'est son travail est purement théorique, sur l'interprétation des textes au contexte. Donc il va donner des avis religieux.
C'est un alim.
C'est un alim, bien sûr. Voilà. Obligé, forcément. Bah, il est alim, mais il a une action dans l'imamat qui est spécifique à travailler le texte pour l'adapter au contexte. Donc faire cet effort d'adaptation du texte au contexte. Il émet donc de cela des fatwas. Alors attention, le mot fatwa, c'est pas dans le sens que l'on lui a donné à l'époque.
Un avis religieux.
Voilà, c'est purement un avis religieux. Ouais. Par exemple, donner la permission à une femme enceinte de ne pas jeûner, parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle met en péril son bébé, c'est une fatwa. Hein, c'est pas une fatwa de la tuer et de la condamner à mort, non. C'est une fatwa lui autorisant à ne pas jeûner. Donc il faut arrêter de déformer, d'instrumentaliser des expressions qui à l'origine n'ont rien à voir avec ce en quoi elles ont été. Vous savez que le mot mufti, M-U-F-T-I, est un mot dans la langue française. Il existe dans le dictionnaire. Donc aujourd'hui, c'est le dernier mot qu'on ne veut pas utiliser parce qu'ils sont très frileux avec ce mot-là au sein des instances religieuses en France.
C'est vrai ?
Ah oui. Tu connais toi un conseil de ifta, un conseil de fatwa ? Est-ce que tu as entendu parler ? Il y a Dar al-Fatwa, effectivement.
Oui, il y a Dar al-Fatwa.
Oui, Dar al-Fatwa, qui est une branche de musulmans de France.
Il y a le conseil européen de la fatwa.
Mais c'est européen.
Oui, voilà.
C'est européen, c'est même pas français. C'est-à-dire qu'on dit que la branche française, c'est Dar al-Fatwa, dirigée par Omar Dorman et Ounes Gergah, de l'organisation musulmans de France. Donc c'est une sous-organisation. C'est-à-dire, de ce conseil français du culte musulman, vous avez une fédération qui s'appelle Musulmans de France, et chez Musulmans de France, vous avez une organisation qui s'appelle la Dar al-Fatwa, la maison de la fatwa. Mais à part ça, il n'y a rien. Alors qu'il devrait y avoir une instance nationale des liftas, pour moi, qui doit émerger du Conseil national des imams.
Alors, on va en reparler tout à l'heure, Imam Abdelali, après la pause publicitaire, nous serons en ligne avec le père Dominique Fontaine, qui est curé du secteur qui regroupe Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chanteloup-en-Brie. Et il viendra nous parler d'un grand gala de la paix ce soir à Bussy-Saint-Georges, organisé par l'esplanade des religions.
Il y avait l'esplanade des mosquées.
À Bussy-Saint-Georges. Voilà, à Bussy-Saint-Georges.
C'est la seule ville qui a ce...
Au monde, hein.
Ah ouais, en France en tout cas, mais après dans le monde,
Dans le monde, il n'y a pas d'équivalent.
Il y a dans une même place la mosquée, la synagogue et l'église.
Ah, mais il n'y a pas que ça.
Il y a même un temple bouddhiste.
Il y a toutes les religions. On sera avec lui en ligne dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Nous sommes en ligne avec le père Dominique Fontaine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes curé du secteur de Bussy-Saint-Georges et de tout un nombre de communes autour.
Aux alentours de Bussy-Saint-Georges.
Voilà, et vous êtes membre de l'association de l'esplanade des religions et des cultures à Bussy-Saint-Georges. Est-ce que vous voulez un petit peu nous présenter cette esplanade ?
Ben, vous voyez, comme à Bussy-Saint-Georges, c'est une ville nouvelle, il y a eu ce projet que toutes les religions construisent leur lieu de culte les uns à côté des autres, donc en bon voisinage.
Au même endroit, en fait. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a une mosquée, un temple, une église ?
Oui, alors l'église est un peu plus loin, parce qu'on l'a construite il y a 20 ans, mais avant le projet, quoi. Mais on participe à l'esplanade de façon importante depuis le début. Donc, il y a la mosquée, il y a la synagogue qui est dans un préfabriqué, mais qui va être construite juste à côté de la mosquée, donc c'est ça aussi une originalité de notre esplanade. Il y a deux pagodes bouddhistes, et puis il va y avoir un temple hindou, et puis certainement aussi une église éthiopienne, chrétienne, orthodoxe, éthiopienne.
Tout ça dans la même rue, on va dire.
Voilà, oui.
C'est une initiative unique en Europe et même au monde, hein. On peut même parler de laboratoire interreligieux.
Tout à fait, peut-être, oui. On n'emploierait pas ce mot-là, mais vous avez raison, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez mesurer aujourd'hui l'impact que vous avez depuis que vous existez ? Est-ce que cette cohabitation des religions a changé l'état d'esprit et le vivre ensemble ?
Ah, tout à fait. Moi, je me rends compte que dans les rues de Bussy et des communes environnantes, par exemple, quand il y a eu les attentats, les gens n'ont pas réagi contre les musulmans. Parce que ils connaissaient des musulmans et ils savent que, par exemple, les chrétiens sont en lien avec les musulmans, que les juifs aussi fréquentent les musulmans. Quand des musulmans viennent à la prière le vendredi, ils passent à côté de la synagogue et à côté des temples bouddhistes. Hein. Donc, ça crée un climat, ça, c'est évident.
Mmh. Et est-ce que vous...
Dans les élections, vous voyez, les dernières élections, le Front National fait beaucoup moins à Bussy que dans les communes autour de cette marne.
Là, on peut mesurer, mais est-ce que vous vous recevez entre religion et dans les lieux de culte?
Tout à fait. Hein. Là, on le fait pour les fêtes. On s'invite à nos fêtes. Et c'est intéressant parce que ça crée de la curiosité. Quoi, hein. Donc, on est curieux de découvrir ce que vivent les autres religions. On se reçoit aussi pour des initiatives. Là, le gala pour la paix de ce soir a été préparé par des fidèles de chaque religion. Et de faire quelque chose ensemble, bah, ça crée de l'amitié. On a fait une brocante dans le cadre du vide-grenier de la ville le 26 septembre dernier. On a fait une brocante de l'esplanade sur un grand parking. Et toute la journée, on a travaillé ensemble entre des fidèles, et souvent des fidèles qui participent pas forcément à l'esplanade, mais qui là étaient heureux de se retrouver et de vendre des objets au profit de l'association. Mmh.
Oui, alors je voulais comprendre l'objet de cet événement ce soir que vous organisez.
Le gala de la paix. Hein.
Le gala de la paix. Alors c'est pourquoi maintenant? Pourquoi vous avez choisi cette date et pourquoi Bussy-Saint-Georges?
Bussy-Saint-Georges, c'est à cause de notre esplanade. Hein. On le fait. C'est le troisième gala qu'on fait.
Précise que à Bussy-Saint-Georges, vous êtes la seule ville où se trouve dans la même rue, dans la même place, des lieux de culte de différentes confessions.
Et même des cinq grandes religions.
Donc c'est véritablement le symbole du vivre ensemble que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre ville et l'exemple à suivre pour les autres villes en France. Et même ailleurs.
On espère, hein, mais on n'est pas trop prétentieux quand même. Hein. On essaye.
On essaye.
À notre niveau.
On tend vers cet objectif.
Voilà, et si ça permet à d'autres, si ça leur donne des idées, tant mieux. Hein. Et donc c'est le troisième gala pour la paix qu'on fait. Le premier, donc, c'était après les attentats du mois de novembre 2015. On en a fait un autre en 2018 autour du thème de la non-violence, hein, parce que c'est quand même une grosse question, la violence dans nos sociétés. Et c'est aujourd'hui, c'est parce que c'est la journée mondiale des droits de l'enfant, comme vous l'avez dit, et nous axons notre gala sur les enfants. Il y aura un spectacle d'une vingtaine d'enfants qui va commencer le gala, et ensuite des expressions de chaque communauté autour du thème des droits de l'enfant. Mmh.
Alors, le gala se déroule où
Alors, il se déroule à l'église Notre-Dame-du-Val, à Bussy-Saint-Georges. Pourquoi? Parce que c'est le seul.
Oui, pourquoi l'église?
Oui, la question ne s'est pas trop posée dès le départ, parce que c'est le seul endroit qui peut accueillir plus de 1000 personnes. Nous avons la chance d'avoir une grande église qui peut accueillir plus de 1000 personnes, et c'est le seul endroit à Bussy qui est capable de contenir tout ce nombre de personnes. Donc, dès 2015, tout le monde était d'accord pour qu'on fasse nos galas à l'église. Quoi. Mmh.
Est-ce qui veut dire que ceux qui sont d'autres communautés vont indifféremment d'un lieu de culte à un autre? C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, oui. Moi, je vois, par exemple, quand on va se balader avec des amis, on peut rentrer à la mosquée, on est toujours bien accueillis, et il y a toujours quelqu'un pour nous faire visiter, même si on arrive à l'improviste. De même dans les temples protestants, de même à l'église pour les gens des autres religions. On est un peu, j'allais dire, comme des voisins qui se font visiter.
Qui se rendent visite.
Ouais, alors, quel est le programme qui va être organisé ce soir? Et comment vous allez fructifier ce travail?
Oui. Ça commence à 20h30, les portes ouvrent à 19h45, et ça commence par 20 minutes d'un spectacle d'enfants, de 20 enfants de différentes communautés qui ont monté un spectacle sur les droits de l'enfant, sur la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un texte juridique un peu compliqué, mais ils l'ont retravaillé avec leurs mots à eux. Quoi. Et donc ce premier temps de spectacle, ensuite chaque religion a 5 minutes, pas plus, pour exprimer quelque chose de sa religion à partir des droits de l'enfant. Et ensuite, dans une deuxième partie, il y a une chorale interreligieuse qui travaille depuis le début septembre, hein, et qui va interpréter 7 chants qui ne sont pas forcément des chants religieux, mais des chants liés à la dimension spirituelle.
Est-ce que quand toutes les religions cohabitent comme ça dans un même lieu, est-ce que le mot communauté a encore un sens?
Ah ben oui, bien sûr, hein. C'est pas du communautarisme, justement, mais le mot communauté, nous y tenons beaucoup, parce que communauté, ouais, ça veut dire être ensemble, et vivre sa religion, vivre une fraternité entre nous. Et si nous la vivons entre nous, eh bien, nous sommes ouverts à rencontrer les autres communautés.
Donc le défi, ce n'est pas de nous dissoudre les uns avec les autres, c'est-à-dire pour créer un syncrétisme religieux absurde qui nous enlèverait nos racines, nos convictions respectives. Mais justement, le défi, c'est de relever le défi de promouvoir ce vivre ensemble malgré la différence. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis, disait Saint-Exupéry.
Tout à fait. Et une chose qui m'a beaucoup frappé depuis quelques années, c'est que les uns et les autres nous disons, le fait de découvrir ta religion m'oblige à me reposer des questions sur la mienne, à interroger ma propre religion, à la revisiter et à l'approfondir. Et j'ai des amis musulmans qui disent, j'ai jamais été autant musulman que depuis je vous rencontre, vous les bouddhistes, les chrétiens. Et ça, c'est valable pour tout le monde.
En tout cas, nous, les imams, nous encourageons le dialogue interreligieux, puisque c'est une manœuvre qui fait partie de ce travail de long terme, qui est le fruit du travail de longue haleine mené depuis des années par les différents représentants des cultes en France, que ça soit au niveau local, départemental ou national, dans lequel nous disons à tous ces détracteurs qui veulent nous monter les uns contre les autres, ces extrémistes qui veulent nous monter les uns contre les autres et utiliser les religions comme des étendards pour monter les religions les uns contre les autres, eh bien, vous ne passerez pas par nous. Au contraire, nous, au nom de notre religion, au nom de notre amour que l'on a pour Dieu, eh bien, nous allons nous aimer les uns les autres.
Tout à fait.
Voilà, c'est du moins, j'espère en tout cas, l'avenir et le destin de cette grande communauté nationale que sont les Français et tous ceux qui habitent en France.
En tout cas, on rappelle ce rendez-vous donc que l'Esplanade des Religions donne ce soir, un gala de la paix et du droit des enfants. Hein.
Et qui est ouvert à tout le monde.
Voilà,
tout le monde peut venir. C'est gratuit.
C'est gratuit, bien
d'accord.
Sûr. Il faut simplement le pass sanitaire.
Voilà. Ah, le fameux.
Ouais, mais le passe sanitaire, parce que c'est en lieu clos ou bien c'est dehors?
Non, non, c'est à l'intérieur de l'église. Hein.
Ah oui, c'est à l'intérieur de l'église.
Mais c'est pas un lieu, disons, c'est pas un événement de culte.
Voilà, c'est pas un rituel. Il n'y a pas de rituel religieux chrétien, etc.
C'est un concert, donc là, on est tenu à la réglementation.
D'accord.
Comme réglementation générale, quoi, comme dans n'importe quel
cas. Aujourd'hui, vous, dans votre église, ceux qui viennent participer aux cérémonies religieuses chrétiennes, c'est-à-dire les chrétiens,
oui,
vous leur demandez le pass avant d'entrer?
Non, non, on n'est pas obligé. Hein,
alors pourquoi, justement, alors, pourquoi? Je comprends pas, dans certains événements, on demande le pass, c'est pas dans d'autres.
Ça, c'est pas un événement cultuel, c'est un événement culturel.
Donc le culte, même si on est très nombreux, c'est pas grave.
Il
y a Dieu, il y a Dieu qui protège.
On peut tousser, voilà.
Il y a Dieu qui protège. Si c'est pas cultuel, il y a pas Dieu, donc il faut le pass.
Le culte pour nous, la messe, ça dure une heure.
Et n'empêche, en une heure, on peut faire passer. Mais c'est pareil chez les musulmans. Je vous cache pas que moi, le vendredi, je suis à la mosquée, je suis l'imam, et les responsables de la mosquée, dans aucune des mosquées où j'exerce l'imamat, ne demandent le pass sanitaire. C'est pareil. Hein, je suis pas en train de dire que ce sont, c'est quelque chose que
la préfecture ne demande pas.
Voilà, c'est la préfecture, effectivement. C'est les décisions de l'État.
Voilà.
Mais la question de l'imam est pertinente.
Ouais, elle est pertinente quand même. Je pense qu'elle méritait d'être posée. Et c'est vrai que c'est bizarre.
Bon, rendez-vous avec votre passe sanitaire. Voilà. Donc ce soir, donc c'est à 20h30.
Ce qui limite malheureusement.
Il faut y arriver avant. Hein, Notre-Dame du Val à Bussy-Saint-Georges.
33 boulevard Thibault de Champagne.
Ouais. Voilà pour ceux.
33 boulevard
Thibault
de Champagne. Voilà.
Ouais.
À Bussy-Saint-Georges.
Il
faut rappeler, dans le 77.
Dans les contre-allées environnantes.
Alors, on rappelle, c'est dans la Seine-et-Marne, 77.
RER A. Oui, c'est en Seine-et-Marne, par le RER A. C'est la ligne jusque avant Chessy. C'est Bussy-Saint-Georges, sur la ligne A.
D'accord.
Voilà, ça c'est une belle initiative, en tout cas c'est une initiative unique dans son genre dans le monde entier, hein, vous faites école, Le père Dominique Fontaine était avec nous ce matin. Merci.
Merci beaucoup, père Dominique. Père Dominique.
Voilà.
Une continuation.
Et bon gala de la paix, puisque c'est ce soir le gala de la paix. L'islam au présent, c'est jusqu'à 11h sur Beurre FM. On continue à parler de l'imama avec justement l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous parlons de la fonction d'imam ce matin avec l'imam Abdelali Mamoun. Vous pouvez d'ailleurs poser toutes vos questions standard au 01 53 48 3000. 01 53 58 3000. Alors, aujourd'hui, Imam Abdelali, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, mais il y a aussi un grand nombre d'événements qui concernent les imams en France qui s'organisent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est demain.
C'est demain?
Demain dimanche. Demain dimanche 21. Nous sommes le 20 aujourd'hui, demain le dimanche.
Ah oui, c'est vrai,
21.
Moi j'anticipais.
Ouais, tu anticipes. Demain, effectivement, s'organise dans une grande salle de conférence une réunion des imams de France, donc dans l'hôtel Novotel à Bagnolet. Donc des centaines d'imams vont venir de partout, de tout le territoire français, composé de toutes les tendances, de toutes les origines, de toutes les ethnies, de toutes les, on va dire, sensibilités religieuses, soufis et autres, etc. Conservateurs, plus ou moins réformistes, etc. Bref.
Là, vous êtes en train de nous dire que tout le monde est invité.
Tout le monde est invité, mais tout le monde ne sera pas là. Pourquoi ? Tout le monde ne sera pas là, nous le savons, parce que aujourd'hui, après que cette coordination de fédération ait pris l'initiative logistique, je dis bien, et même politique, puisque elle a obtenu la bénédiction du ministère de l'Intérieur, qui permettra de reconnaître cette institution qui sera le Conseil national des imams, eh bien, ce navire naufragé qu'on appelle le Conseil français du culte musulman, je rappelle que nous souhaitons que le CNI soit totalement indépendant du CFCM, et donc c'est pour cela que nous avons accepté que soit organisée cette instance en dehors du cadre du Conseil français du culte musulman, puisque nous ne voulons pas, et c'est ce que veut en tout cas Monsieur Moussaoui, il veut que le CNI, le Conseil national des imams, reste sous la tutelle de ce Conseil français du culte musulman. En gros, il veut que des religieux soient au doigt et à l'œil des laïcs. C'est-à-dire que les imams devront subir le paternalisme et les injonctions venant du Conseil français du culte musulman.
Ah, c'est pas très laïque le CFCM.
C'est pas le CFCM qui est laïque ou pas. C'est la question de gens qui la représentent. Aujourd'hui, les élus des fédérations du CFCM, d'abord qui sont autoproclamés, ils sont même pas élus, ils sont, on va dire, cooptés, directement désignés par eux-mêmes et par leur consulat respectif, eh bien, ne sont pas des hommes qui sont des experts dans la religion, ce sont pas des imams et qui ont des compétences religieuses. Ce que souhaite cette coordination de fédération, c'est de libérer ce CNI, ce Conseil national des imams, de cette instance qui n'a ni queue ni tête, qui ne fait que se chamailler pour des raisons d'intérêt, soit financier ou politique, entre Algériens, entre Marocains, entre Africains, entre Turcs, etc. Donc nous en avons marre de tout ça. Nous pensons que les imams doivent prendre les choses en main et de dire que le culte en France a besoin d'être organisé. Et la première organisation, c'est celle des imams, de l'imama, de l'animation des rituels religieux au sein des mosquées, d'encadrement des fidèles, de manière à ce qu'ils ne soient pas voués à eux-mêmes et, on va dire, et kidnappé par un discours extrémiste. L'imam doit être le garde-fou de cette interprétation dangereuse de l'islam, et donc il était temps que les imams réagissent. Mais dans sa volonté de vouloir diviser, je ne sais pas si son intention est de rassembler, mais en tout cas Moussaoui souhaite organiser une autre assemblée générale d'un autre CNI le 12 décembre. Je ne sais pas où.
C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, vous êtes en train de nous dire qu'il y a deux projets de création.
Non, c'est pas deux projets. Il y a un qui est réel demain, qui va se réunir et qui a déjà mis tout en place, la logistique, l'accueil, la nourriture, l'infrastructure, qui est l'hôtel Novotel, et même les moyens pour faire déplacer les imams de toute la France. Et il y a un communiqué qui a été diffusé et il est réel. Et il y a eu un travail en amont, des réunions préparatrices qui ont proposé des statuts, le statut de l'imam, le parcours de l'imam, le code déontologique de l'imama, la réforme du discours religieux. Donc tout un travail qui a été mené par cette coordination et qui propose déjà un support qui est voué à être modifié et qui peut faire l'objet de rectification, mais elle vient avec du travail. Qu'est-ce qu'a fait M. Moussaoui depuis le départ des fédérations, des quatre fédérations et même des trois autres qui n'ont pas signé la charte? Qu'est-ce qu'a-t-il fait depuis le mois de mars? Nous l'attendons depuis mars 2021, où les fédérations qui ont quitté le CFCM ont décidé de continuer à travailler sur le CNI. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Il n'a purement et simplement rien fait. Et c'est maintenant, monsieur, il se réveille et il dit, moi, non, mais attendez, c'est moi qui va faire le CNI. Attends. On t'attendait, moi, je veux bien, moi, j'ai rien contre Mohamed Moussaoui, j'ai aucun problème avec lui. D'accord. Si je le vois, je lui fais la bise. Donc, pourquoi n'a-t-il pas réagi avant?
Donc, il y a un projet de CNI, aujourd'hui.
Et il est sur place, et il va demain être créé, tout simplement, et être élu. Il y aura des élections, il y aura des discussions, il y aura des assises, il y aura des groupes de travail qui vont se réunir autour de différents sujets pour entériner les statuts, entériner les différents travaux qui ont été déjà menés, et pourquoi pas décider d'ouvrir d'autres chantiers qui concernent l'islam de France. Et les imams en France.
Qu'est-ce que ça change, finalement, un conseil national des imams en France? Ça va changer quoi?
De ne pas laisser les imams orphelins, chacun dans sa ville, à décider de lui-même et de son avenir et de son sort et de son destin. Hein, les imams vont pouvoir travailler ensemble. Il y aura une coopération des imams pour créer aussi un centre de formation continue. Des imams pourront combler leurs carences dans les domaines dans lesquels ils ont besoin d'être formés, comme dans n'importe quel. Tu sais très bien, toi-même, tu es cadre dans une entreprise, Philippe. Tu sais que dans les entreprises, même des cadres, même qui les sachants d'une entreprise, continuent toute leur carrière, pendant toute leur carrière, à se former, à suivre des formes. On a même un CEF. Un compte épargne formation. Et pourquoi pas chez l'imam? Pourquoi l'imam se sentirait omniscient pour être exempt de cette formation continue dont il a besoin? Aujourd'hui, il est voué à lui-même. On le prend tel qu'il est, avec ses compétences et avec ses carences. Et combien sont-elles, ces carences? Parce que combien d'imams et même de musulmans se plaignent de l'incompétence de beaucoup des imams que l'on a choisi malgré eux? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, Philippe, c'est qu'il y a plus de mosquées que d'imams. Alors, il y a 2600 mosquées et il y a moins de 2000 imams vrais, réels.
Imam Adelali, des projets de représentation d'imams en France, il y en a depuis 30 ans.
Il ne s'agit pas de représenter, Philippe, on corrige. Il s'agit d'organiser.
Bon, d'organiser.
Moi, je m'en fous de la représentation. Celui qui va serrer la main de Macron, j'en ai rien à faire.
Mais alors,
ça ne m'intéresse pas.
Qui est un imam qui est représenté par le CNI?
C'est celui qui a été choisi par les imams du CNI, tout simplement. Le mentor, c'est-à-dire celui qui aura. Mais attention, je rappelle, il n'y a pas de représentant du CNI. Il y a un CNI qui travaille. On n'est pas là pour avoir quelqu'un qui va dire bonjour à Monsieur Macron dans des réunions mondaines avec des petits amuse-gueules. Non, c'est pas ça le fait d'avoir un CNI. C'est pas pour avoir quelqu'un qui va parler dire bonjour à Monsieur le Président et faire bonne figure devant les médias. Ce sont des gens qui vont bosser, qui vont assumer des postes de travail, qui vont prendre en charge des dossiers de la formation des imams, les dossiers des statuts administratifs de l'imam, de son statut de personne déclarée, par exemple à la CAVIMAC et tout ce qui s'ensuit, et du respect que l'on doit à l'imam dans son statut administratif, mais aussi de la référence théologique, de ce travail de recherche qui doit être mené pour adapter l'islam au contexte français. Donc tout un ensemble même qu'on crée un nouveau vivier d'imams formés à la base, c'est-à-dire une vraie école de formation des nouveaux imams. Ça aussi, c'est un dossier énorme qui exige un rassemblement des moyens et des efforts. Et j'en passe, c'est des meilleurs.
Alors, quel est le statut de ce CNI? C'est quoi? C'est une association?
C'est une association loi 1905.
D'accord.
Donc, il y a ce qu'on appelle association cultuelle, qui va donc être créé demain et qui a des statuts déclarés au ministère de l'Intérieur et qui va être reconnu par le ministère de l'Intérieur pour homologuer tous les imams qui exerceront dans les mosquées, de manière à s'assurer que tous ceux qui prêchent l'islam soient homologués, soient connus des services religieux musulmans avant d'être connus des services de renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Alors comment on fait pour qu'un imam soit entre guillemets homologué?
Eh bien, il devra se manifester en disant voilà, moi je suis imam, et son association devra signaler le nom de cette personne-là, c'est les renseignements qu'il y a, et puis fera l'objet d'une expertise pour savoir si effectivement il est apte ou pas à exercer l'imamat. De toute façon, nous ne sommes pas là pour juger les imams, sont là pour les aider, les accompagner. L'objectif, ça sera surtout d'abord de faire un bilan de compétences pour proposer à l'imam qui a des carences. Eh bien, nous t'invitons à suivre ces cycles de formation que va vous proposer le CNI.
Quand vous dites invité, ça veut dire que ce sont des formations gratuites pour
l'imam. Gratuites et surtout non obligatoires, bien sûr. Maintenant, si nous constatons de la mauvaise foi, une volonté d'isolement, de marginalisation ou de même de rejet de la société, eh bien là, nous mettons dans le collimateur de cette mosquée, on tire une sonnette d'alarme pour dire attention, les fidèles, votre mosquée est comme la mosquée d'Alon ou d'autres mosquées vouée à faire l'objet d'une sanction administrative de la préfecture, comme ça s'est passé. Et je parle là clairement de fermeture, tout simplement.
Alors ça fait des années, Imam Abdelali, qu'on parle d'un centre de formation des imams en France. Hein. Ce centre va-t-il ouvrir et qui prendra en charge la formation des imams?
Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réunir les efforts. La mosquée de Paris fait un travail extraordinaire. Elle a créé l'Institut Al-Razali et ses branches et ses sections en France. Il y en a une à Lille, une au Mureau, bien sûr, et celle de Paris à la Al-Razali, à la Grande Mosquée de Paris. Vous avez celle de Martigues, dans le sud, de Lyon et de Marseille. Et elle souhaite aussi en ouvrir à d'autres endroits.
Je vous dis ça parce qu'on on a parlé à une époque, Imam Abdelali, d'un nouveau centre de formation des imams.
Ailleurs, pour moi, il ne doit pas y avoir un centre. 2600 imams à suivre en continu, un seul centre ne peut pas suffire à lui-même pour continuer à suivre les imams dans des différents cycles de formation. Mais aussi le côté financier, qui est encore aussi un gros problème.
Qui paye pour la formation des imams?
Pour l'instant, aujourd'hui, on ne sait pas. On espère demain avoir suffisamment de crédibilité pour trouver des mécènes qui vont pouvoir, inchallah, financer ces différents projets parce qu'ils seront crédibles, ils seront reconnus et seront suffisamment populaire pour être soutenu financièrement par les mécènes.
Bon, donc,
et d'autres.
Création du Conseil National des Imams demain à l'hôtel Novotel de Bagnolet, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Qui est réservé aux imams, bien sûr.
Voilà, bien sûr. Mais c'est sa naissance officielle demain.
Inch'Allah ta'ala, j'espère. Et malheureusement, le 12 décembre, ce que va faire Monsieur Moussaoui, je ne sais pas. Nous attendons toujours.
On l'invitera la semaine prochaine.
Il dit qu'il va faire, mais on n'a rien vu. Ça fait des mois, même des années. Je rappelle que depuis 2005, moi, je l'ai appelé à créer un Conseil national des imams. Il a toujours refusé. Et aujourd'hui, d'un seul coup, il se réveille. Ah, je veux faire. Le 12 décembre, on va le faire. Moi, je lui dis même à travers. Où étais-tu? Tu n'as plus de crédibilité. Moi, en tout cas, je n'ai plus confiance.
Imam Abdelali Mamoun, on vous retrouve samedi prochain. Oui, donc pour l'islam au présent, vous pouvez appeler l'imam Abdelali Mamoun si vous voulez partir à la Omra, puisque là aussi, au mois de décembre, c'est le mois de réouverture de la Omra avec
l'imam
Abdelali
Mamoun. Tout à fait, même maintenant c'est déjà ouvert la Omra. Mais moi, en ce qui me concerne, le voyage que j'organise, c'est du 20 décembre au 1er janvier. Inch'Allah ta'ala, moi j'ai une longue expérience dans l'imama du rite du pèlerinage petit et grand, c'est-à-dire Omra et Hajj. Ceux qui souhaitent participer avec moi, ils m'appellent au 06 29 25 35 00. C'est aussi le numéro pour poser des questions. 06 29 25 35 00 pour ceux qui veulent participer avec moi à cette Omra ou veulent financer une Omra pour une personne décédée. Vous pouvez pas y aller, vous voulez qu'on fasse une Omra pour quelqu'un décédé, vous m'appelez, on organise ça inchallah, il y a pas de souci. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Allah yajma' shamlana wa wahid saffana. Allahumma wahid kalimatana, que Dieu nous unit dans le bien et qu'il nous permet à cette religion de trouver toute sa place et sa grandeur dans ce beau pays qui est la France. Que Dieu bénit.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.